Soir Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre l'impunité en Afrique. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont exhorté les autorités de transition au Soudan ce mercredi à mettre un terme au règne de l'impunité en traduisant en justice les responsables des crimes commis au Darfour. 16 ans après le déclenchement du conflit meurtrier dans cette région de l'ouest du pays en 2003. Le Soudan est gouverné par des autorités chargées d'assurer la transition vers un régime civil depuis un accord conclu en août entre l'armée et les meneurs du mouvement de contestation qui a entraîné la destitution de l'ex-président Omar al-Bashir en avril. Le nouveau gouvernement a promis de pacifier les régions en conflit dans le pays, notamment le Darfour. Dans un rapport intitulé « Darfour, le règne de l'impunité doit cesser », la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, et d'autres ONG estime que les responsables des crimes commis dans la région n'ont toujours pas été jugés par un manque de volonté politique au Soudan et dans les pays voisins. L'ex-président Béchir, condamné samedi dernier pour corruption par la justice soudanaise, est sous le coup de deux mandats d'arrêt émis en 2009 et 2010 par la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. En Côte d'Ivoire, report du procès de l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé qui devait s'ouvrir ce mercredi à Abidjan. Motif, le dépôt d'un pourvoi en cassation, a souligné Maître Soui Bigoré, un des avocats de l'accusé. Le président du tribunal criminel d'Abidjan a décidé de retirer l'affaire du rôle dans l'attente de l'examen du pourvoi par la Cour de cassation qui pourrait prendre plusieurs mois, a ajouté Maître Bigoré en notant que Charles Blé Goudé, accusé par la justice ivoirienne d'actes de torture, homicide volontaire et viol, n'est pas en fuite et ne se soustrait pas à la justice de son pays. L'ex-chef des jeunesses ivoiriennes, acquitté en première instance par la CPI, la Cour pénale internationale d'accusation de crimes contre l'humanité, est en liberté conditionnelle aux Pays-Bas dans l'attente de l'examen de l'appel de la procureur du tribunal de La Haye. Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire tant que la procédure n'est pas terminée. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Maintenant, le Niger célèbre ce 18 décembre le 61e anniversaire de la proclamation de la République. Cette célébration intervient dans un contexte difficile pour le pays, confronté à de multiples attaques terroristes le long de ses frontières avec le Mali notamment. Cette situation a dominé l'adresse à la nation faite à cette occasion par le président Issoufou Mahamadou. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
L'attaque du camp d'Inates le 10 décembre dernier par les éléments de l'État islamique du Grand Sahara qui a causé la mort de plus de 70 soldats nigériens a occupé une bonne partie du message à la nation du président Issoufou Mahamadou à l'occasion de ce 61e anniversaire de la République. Elle vient rappeler, selon lui, aux plus sceptiques que le pays est en guerre et que nous devons plus que jamais nous unir. Les autres sujets évoqués sont les effets néfastes du changement climatique sur le pays, la diplomatie gagnante ou encore les élections générales de 2020-2021.
Ces élections seront un test important pour notre pays. L'enjeu est de taille, car pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un président démocratiquement élu passera le témoin à un autre président démocratiquement élu. Je réaffirme mon engagement à faire en sorte que les prochaines élections soient libres, démocratiques et transparentes. Je réitère à nouveau mon appel à toute la classe politique en vue d'un dialogue sincère dans l'intérêt de notre pays.
Cette année, les festivités de la commémoration de la fête de la République, notamment le grand défilé civil et militaire, se déroulent comme par ironie dans le chef-lieu de la région de Tillabéri, régulièrement frappé au niveau des localités frontalières avec le Mali par les attaques des groupes terroristes, un défilé auquel le président Issoufou Mahamadou assiste ce mercredi. Abdoulaye Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Sénégal, Maître Bandi Kenyan, un des candidats malheureux à la présidentielle de 2019 renonce à la politique sur ordre du calife général des Mourides, la communauté musulmane majoritaire dans le pays. C'est le même guide religieux qui a été à l'origine de la réconciliation entre l'ancien président Abdoulaye Wade et son successeur à la tête de l'État, Macky Sall. Des faits qui montrent l'implication et surtout la forte influence des guides religieux au Sénégal, nous dit notre correspondant à Dakar, Sedina Abagueye, qui est allé recueillir l'avis des populations sur la question.
Au sein d'une population fortement croyante, les guides religieux sénégalais bénéficient d'une grande influence, ce qui leur donne souvent un ascendant sur les hommes politiques. Ainsi, les khalifs des confréries sont souvent des acteurs phares dans des prises de décisions majeures. Une situation que Ndaye Aminata trouve tout à fait normale, car pour elle, les religieux sont les premiers guides dans la société sénégalaise.
Puisqu'ils ont cette possibilité de conscientiser la population, donc ils participent en quelque sorte à l'apaisement de la population. Par exemple, en temps de guerre, donc ce sont eux qui peuvent en quelque sorte discuter avec la population de telle sorte que celle-ci change les décisions. Donc ils ont un rôle phare à jouer parce que au-delà de la politique, il y a la religion. Et puis nous savons que nous sommes dans un pays vraiment où les gens accordent une grande importance à la religion.
Alun Badarondong abonde dans le même sens. Pour lui, les guides religieux sont des atouts non négligeables dans la marche républicaine et la stabilité du Sénégal.
Notre pays a une forte croyance religieuse avec nos différentes confréries. Et chaque confrérie occupe une place très importante, surtout dans la situation politique. Cela va juste stabiliser notre situation politique. Nous savons que les guides religieux sont vraiment influents. Et pour la prise de décision aussi, ça va juste aider les autorités étatiques. Sachant qu'ils ont un atout concernant la soumission de leurs talibés. Donc je me dis que cette implication va juste renforcer notre politique et surtout la stabilité aussi. Ça va beaucoup compter sur la stabilité politique de notre pays.
Au-delà des khalifs, des confréries qui font office de régulateurs de la société, certains guides religieux vont jusqu'à s'engager en politique en créant des partis. Une situation complexe qui peut amener des tensions, d'après Pape Colissard.
Il y a des règles en politique qui font que un religieux dans un combat politique ou avec une connotation politique, ça peut être quelque chose de très 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 dangereux. Parce qu'en réalité, dans notre conception, l'homme religieux n'est pas critiqué. Puisque quand un homme religieux est critiqué, on dit dangay dingat. C'est très dangereux de le faire. Mais un homme politique, est-ce qu'il doit être critiqué? Absolument oui. Oui et oui et oui. Puisqu'un homme politique doit absolument être critiqué et qu'un homme religieux ne doit absolument pas être critiqué, la combinaison homme politique et homme religieux devient une combinaison plus difficile à gérer puisqu'on ne saura pas s'il faut les critiquer ou pas.
Avec une population fortement ancrée dans les croyances religieuses, le Sénégal est un pays où les recommandations des guides religieux sont souvent très suivies par tout un chacun. Une situation à laquelle n'échappent pas les personnalités politiques. Et pour les populations, cela participe fortement à la stabilité du pays. À Dakar, Sedina Abagueye pour VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis pour terminer. À Washington, républicains et démocrates ont serré les rangs avant le vote historique de la Chambre des représentants du Congrès, prévu en principe ce mercredi, sur la mise en accusation du président Donald Trump. Les détails avec Irine Herman Humbo.
La Chambre des représentants contrôlée par les démocrates va passer au vote la mise en accusation du président Donald Trump pour abus de pouvoir et obstruction au travail du Congrès. Après les derniers réglages techniques, ce vote historique pourrait avoir lieu dès aujourd'hui. Selon un sondage CNN-SSR, 45% des Américains souhaitent la mise en accusation et 47% y sont opposés. Donald Trump est quasi certain d'être renvoyé en procès devant le Sénat, sans doute en janvier prochain. Il risque d'être exonéré car il faut les deux tiers du Sénat pour le destituer. Les républicains disposent de 53 sur les 100 sièges de la haute chambre. Leur leader Mitch McConnell ne fait aucun mystère sur ses intentions. Il a déclaré hier que les démocrates ont bâclé leur enquête et sont loin d'avoir atteint la barre nécessaire pour renvoyer en procès un président légitimement élu et encore moins pour le destituer. Il a rejeté la demande des démocrates de convoquer de nouveaux témoins.
Relations États-Unis-Turquie, Ankara avertit Washington son allié au sein de l'OTAN que toute initiative pour lever un embargo sur la vente d'armes américaine à Chypre, vieux de plus de 30 ans, marquerait une dangereuse escalade. Les relations entre Ankara et Washington sont actuellement marquées par une multitude de désaccords. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.